Bienvenidos a este informativo de Radio France. Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir avec vous, Tan A Tran de la rédaction vietnamienne. Bonsoir et bonne année.
Tan chào Philippe, chúc mừng năm mới, bonne année, car nous venons d'entrer dans l'année du dragon selon le calendrier lunaire.
Et ce sera cette nuit.
C'est déjà fait,
l'heure. Ah bah oui, avec le décalage horaire. Oui. C'est déjà presque minuit, ouais, effectivement, au Vietnam. Vous nous parlerez tout à l'heure du représentant nommé par le Vatican qui est arrivé à Hanoï. Pour la rédaction en espagnol, Ubaldo Bravo.
Hola, muy buenas noches.
Vous nous parlerez des relations entre Cuba et la Biélorussie. Elles sortent renforcées en raison de la guerre en Ukraine. Et Pizemam, de la rédaction cambodgienne.
Susday.
Pour le 30e Festival international de cinéma d'Asie qui se tient à Vesoul. En ce moment même. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est également ce qui s'est passé hier au Pakistan, ce pays le cinquième le plus peuplé au monde. Environ 128 millions d'électeurs ont élu 336 députés du Parlement fédéral et renouvelé les assemblées provinciales. Première chose, Pizemam, le scrutin s'est déroulé dans un climat très tendu, voire violent.
Oui Philippe, ce scrutin a été ensanglanté la veille par deux attentats à la bombe dans la province de Balochistan. Au moins 28 personnes sont mortes dans ces attentats revendiqués par le groupe d'État islamique. Selon l'armée pakistanaise, au moins 51 attaques ont eu lieu hier. 12 personnes sont mortes, dont 10 membres de forces de l'ordre. Un climat très tendu aussi du point de vue politique. Après 4 ans de l'exil à Londres, l'ancien premier ministre Nawaz Sharif a décidé de rentrer en octobre dernier pour mener son parti, la Ligue musulmane du Pakistan, PMLN. Il aurait le soutien de l'armée, selon les observateurs. Tandis que le parti Imran Khan, le PTI, a été décimé par les arrestations et des défections forcées. Le PTI n'a pas été autorisé à se présenter à ces élections. Imran Khan, lui, a été condamné à 3 lourdes peines de prison.
Et vous parliez de Nawaz Sharif. Alors dites-nous en plus justement sur cet homme, Ubaldo.
Nawaz Sharif est connu au Pakistan comme le lion du Punjab. Il a dirigé le pays 3 fois, mais sa carrière politique s'est arrêtée en 2017, quand la Cour suprême l'a destitué pour corruption. Il apparaît dans les Panama Papers en tant que responsable d'un gigantesque système d'évasion fiscale. En 2018, il a passé 10 mois en prison, mais pour des raisons médicales, il a été autorisé à sortir et se faire soigner. Et il s'est fait soigner à l'étranger, d'abord aux Émirats, puis à Londres, où il sera en exil jusqu'à son retour en octobre 2023. Il a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Quand il était emprisonné, il disait que tout cela était une conspiration de l'armée pour favoriser Imran Khan, qui venait d'être élu en août 2018. Il n'est pas revenu parce qu'il est innocent, assurent les analystes, mais plutôt parce qu'il compte avec le soutien de l'établissement pakistanais.
Alors revenons maintenant au scrutin en tant que tel, hein, c'était donc hier. Il y a de cela quelques minutes, Londres vient d'exprimer ses graves préoccupations concernant le déroulement de ce scrutin. Ubaldo, en tout cas les électeurs ne semblent pas avoir été beaucoup à glisser leur bulletin dans l'urne.
Oui, les analystes constatent le désenchantement politique des jeunes Pakistanais qui représentent 44% des électeurs. Il s'agit d'un secteur qui, historiquement, n'est pas trop engagé en comparaison des adultes. Mais c'est surtout la crise politique qui a profondément touché toute la population. Une crise dont a parlé Ana Ballesteros Peiro, chercheur au Centre des Relations Internationales de Barcelone, à notre collègue Ana María Ospina.
Son unas elecciones atípicamente apagadas, ¿no? Normalmente la campaña electoral es muy viva, se vive de una forma muy popular, una forma con mucha participación.
¿Quelle est l'expertise de cette madame Ballesteros Peiro?
Oui, Ana Ballesteros considère que la course électorale de 2024 a été atypique. Normalement, les journées sont très dynamiques, des journées assez intenses, mais ce n'est pas le cas cette année parce que l'ex-premier ministre Imran Khan est en prison. D'ailleurs, les candidats de son parti, le PTI, Parti du Pakistan pour la justice, n'ont pas été autorisés à participer. Nous avons vu que ces candidats se sont présentés sur la bannière d'indépendants. Pour Ana Ballesteros, finalement, il n'y a rien de nouveau parce que les militaires se sont chargés de préparer les élections, comme prévu, et en plus parce qu'ils ont laissé un terrain favorable à l'ancien premier ministre Nawaz Sharif. De nombreux analystes ont dit que ce sont les élections les moins crédibles de l'histoire en raison de la répression, notamment avec la disqualification d'Imran Khan.
Bon, on verra bien en tout cas ce que donnera le résultat. En tout cas, pour l'instant, Epizemam, le dépouillement se fait lentement, ce qui ajoute finalement des suspicions et des soupçons de manipulation et de fraude massive.
Oui, effectivement, Philippe. 17 heures après la fermeture des bureaux de vote, la commission électorale du Pakistan n'a annoncé que les résultats de 53 sièges pour le total de 336 sièges au Parlement. Les réseaux téléphoniques et Internet ont été coupés depuis jeudi. La commission électorale a d'abord invoqué des problèmes d'Internet pour expliquer la lenteur du processus de comptage, mais le ministère de l'Intérieur a indiqué dans un communiqué qu'elle découlait de précautions prises pour assurer la sécurité absolue du dépouillement. Selon Alp Toker, directeur de NetBlock, la coupure d'Internet que l'on observe actuellement au Pakistan est une pratique fondamentalement antidémocratique. En général, les électeurs pakistanais dépendent de l'envoi de SMS pour savoir où aller voter. Beaucoup avaient du mal à localiser le bureau de vote à cause de coupures d'Internet. Et d'après un sondage de l'Institut Gallup sorti cette semaine, 70% des Pakistanais n'ont pas confiance dans l'intégrité des élections. Et selon Michael Kugelman, directeur de l'Institut d'Asie du Sud, au Wilson Center à Washington, les craintes de falsification des résultats de fraude sont répandues et à juste titre.
Et vous le disiez il y a de cela quelques instants, il y a quelques résultats. Ils provoquent une surprise puisque les candidats liés au parti d'Imran Khan auraient obtenu de bons scores.
C'est vrai, en effet, selon les résultats officiels, certes très partiels, Philippe, les candidats d'indépendants liés au PTI, le parti d'Imran Khan, ont obtenu au moins 16 sièges pour le scrutin législatif, soit seulement un de moins que la Ligue musulmane du Pakistan de la famille Sharif. Le décompte officieux des chaînes de télévision locales font paraître le PTI en tête dans plusieurs des circonscriptions restantes, mais le PMLN, le parti de la famille Sharif, reste toutefois bien placé pour remporter la province de Punjab, la plus peuplée du pays. Et d'après la porte-parole du PMLN, le vainqueur de la province de Punjab est normalement en position de force pour prendre la tête du gouvernement national.
Voilà, donc il faut attendre les prochaines heures et peut-être même les prochains jours pour en savoir plus sur la composition de cette assemblée. À la rédaction vietnamienne, Tran Atral, vous abordez, vous, ce scrutin sous l'angle géopolitique, hein.
Oui, effectivement, parce que le Pakistan, c'est une puissance nucléaire, le seul pays musulman ayant l'arme nucléaire. Il est situé entre l'Afghanistan, l'Iran, l'Inde, la Chine, et puis juste le sud s'ouvre sur la mer. C'est un pays marqué par l'insécurité politique, l'instabilité politique, et qui a été dirigé pendant des décennies par l'armée, comme nous venons de le dire. Le Pakistan, mi-janvier dernier, le Pakistan a mené des frappes sur le territoire iranien en réponse des attaques iraniennes sur les bases d'un groupe terroriste pakistanais.
C'est avec l'Inde, hein, Trana, l'autre puissance nucléaire, où la situation est plus tendue. Ils sont dans une situation de guerre, ces deux pays, permanente, hein, notamment dans le Cachemire. En fait, c'est une dispute de frontières.
Oui, tout à fait. L'Inde et le Pakistan se sont livrés 4 guerres depuis leur indépendance en 1947. Ils se disputent la souveraineté du Cachemire, et région qui est divisée en deux. Entre les deux frères ennemis, c'est la guerre froide. En février 2019, l'aviation indienne avait lancé un raid en territoire adverse en représailles à une attaque à la bombe qui avait tué 40 soldats au Cachemire indien. Les deux armées se sont ensuite affrontées en combat aérien, faisant craindre une escalade. Et puis quelques mois plus tard, le gouvernement indien du Premier ministre Narendra Modi, abroger l'autonomie d'une région appartenant au Cachemire. Oui. New Delhi et Islamabad n'ont plus d'ambassadeurs chez leurs voisins depuis un certain temps.
Voilà, donc on voit le Pakistan, on voit l'Inde, puis il y a la Chine. Le dialogue est plus apaisé.
Alors, heureusement pour le Pakistan d'ailleurs, alors que les enjeux géopolitiques dans l'Himalaya deviennent de plus en plus complexes, le Parti communiste chinois veut à tout prix achever un projet qui s'appelle le corridor économique Chine-Pakistan. Pékin mise pour ce faire sur le renforcement des sociétés de sécurité privée chinoises dans les régions concernées. Ces dernières années, la Chine a été l'un des partenaires étrangers les plus fiables du Pakistan. La Chine va renforcer son implication sécuritaire pour achever son grand projet qui est la route de la soie lancée depuis 2013. Et justement, ce corridor économique a permis d'injecter des dizaines de milliards de dollars dans les projets de transport, d'énergie, d'infrastructure. Mais le projet a également dû faire face à des difficultés propres au Pakistan, à savoir des obligations financières.
C'est-à-dire que le Pakistan n'a pas forcément les moyens de payer tout cela.
Voilà, de faire face, oui.
Ouais. Dans ce tour régional, il ne faut pas oublier un autre pays important, l'Afghanistan. L'Afghanistan des talibans, un pays dont le Pakistan s'est toujours méfié.
Tout à fait, parce que l'Afghanistan n'a pas reconnu les frontières internationales du Pakistan. Dans les années 50 et 60, les deux pays se sont retrouvés au bord d'un conflit armé. La présence de l'Union soviétique en Afghanistan inquiétait beaucoup Islamabad, ce qui a motivé le Pakistan à soutenir les moujahidines afghans et plus tard à devenir une base arrière pour les Américains par souci de sa propre sécurité. Et en effet, l'unité de cette ethnie pashtoun que le Pakistan soutient présente de part et d'autre de la frontière aurait pu mettre en danger l'unité du Pakistan lui-même. Et en même temps, l'émergence des pays de l'Asie centrale après la dislocation de l'Union soviétique a encouragé Islamabad à se façonner un corridor vers cette région via l'Afghanistan, menant le Pakistan à soutenir les talibans alors qu'ils étaient au pouvoir en Afghanistan entre 1996 et 2001.
Et 2001, c'est les attentats du 11 septembre.
Voilà, et vous voyez, la situation est bien compliquée. Par ailleurs, de nombreux sujets de conflit existent entre les deux pays, notamment sur la question frontalière. On revient toujours à la question frontalière. La présence des réfugiés afghans au Pakistan ou le soutien des talibans afghans aux talibans pakistanais. Alors là, vous voyez bien, on est dans une poudrière, proprement dite.
Et on verra bien ce que donnera donc le résultat de ces élections attendues. Ce sera bien sûr à suivre sur Radio France Internationale. Pour l'heure, vous écoutez Accent du Monde sur RFI. 20 heures
Paris.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, intéressons-nous à une de ses conséquences géopolitiques. Le conflit a amené au renforcement des relations entre Cuba et la Biélorussie. La Havane et Minsk ont d'abord noué une coopération alimentaire pour ensuite en venir à une coopération militaire. Ubaldo Bravo, de la rédaction hispanophone. L'Ukraine était un partenaire important pour la Biélorussie.
Oui, Cuba et l'Ukraine avaient un lien historique très fort. Rappelons qu'après la catastrophe de Tchernobyl, plus de 25 000 enfants ont été soignés à l'Havane gratuitement entre 1990 et 2011, tandis que la Biélorussie restait l'une des républiques post-soviétiques avec lesquelles Cuba avait les moins de relations.
Alors qu'est-ce qui a amené Cuba et la Biélorussie à renforcer leurs liens ?
Alors, il faut comprendre deux choses. D'un côté, le fait que Cuba est du côté de Moscou depuis 2014, quand la Russie annexait la Crimée. À ce moment-là, le gouvernement cubain n'a rien dit sur cette action, ni en 2022, lors de l'invasion. Et de l'autre, il y a la crise économique qui frappe de plein fouet l'île depuis quelques années. Les gouvernements cubains cherchaient de nouveaux partenaires autour du monde. La Turquie, les Émirats, la Chine, le Brésil, le Mexique et bien sûr la Biélorussie. Avec qui les accords ont évolué très rapidement sur tous les aspects. Par exemple, pour leurs échanges commerciaux, qui concernent surtout les aliments, on parle d'une hausse estimée à 300% pour 2023 en comparaison avec 2022.
Alors, ces accords ont évolué très rapidement sur tous les aspects. Dites-nous, expliquez-nous-en les raisons.
Parce qu'en 2022, ces deux pays s'est concentré sur les accords commerciaux. Le vice-ministre des Affaires étrangères de Biélorussie, Evgeny Chevstakov, s'est rendu à La Havane pour signer un protocole sur les investissements de l'industrie agroalimentaire, y compris la possibilité de produire des tracteurs. Puis, les diplomates cubains ont voyagé à Minsk pour assister à Belagro, le salon de l'agriculture de Biélorussie. Cette relation, qui s'est voyagée avant tout comme une relation commerciale, change radicalement fin 2023 quand les pays annoncent un accord militaire. Cuba aurait exprimé son souhait d'acheter des missiles biélorusses d'une portée de 300 km, les Polonais aiment.
Alors il faut savoir que Cuba connaît actuellement une crise économique, l'année dernière une inflation de 30%, sa richesse, son PIB qui s'est contracté d'environ 2%, et puis plus récemment on a vu que plus de 500 000 Cubains ont tenté de quitter l'île. Quel est donc l'intérêt d'établir une coopération militaire pour Cuba avec la Biélorussie ?
Déjà, l'information sur la coopération militaire est très floue. Sevelta, l'agence de presse biélorusse, qui annonçait le souhait de Cuba d'acquérir des missiles. Le ministère de la Défense biélorusse, de son côté, a partagé sur ses réseaux sociaux les activités de son ministre, Viktor Renin, qui a mené à La Havane la semaine dernière. Là, il a reçu une médaille de l'armée cubaine pour sa lutte contre l'impérialisme. Et par ailleurs, le ministère biélorusse a informé de la signature des documents sur les coopérations militaires. Pas de détails sur les contenus. Voilà pourquoi nous avons consulté Jorge Dominguez, ancien professeur de l'université de Harvard et spécialiste de Cuba, afin de savoir comment ces pays pourraient établir une coopération militaire.
Una de esas posibles exportaciones de Bielorrusia a Cuba puede ser equipos militares, transporte, piezas de repuesto de la antigua Unión Soviética, que es el equipamiento militar.
Aidez-nous à comprendre ce que dit Jorge Dominguez.
La coopération militaire entre ces deux pays serait autour des équipements et des pièces de réparation de l'époque de l'Union soviétique, considère Jorge Dominguez. C'est surtout Cuba qui serait la plus intéressée dans cette affaire, car les pays possèdent ce type d'équipement militaire qui est déjà très ancien et a donc besoin de pièces très spécifiques pour sa réparation. Et sur l'éventuel achat de missiles biélorusses, le professeur a rappelé qu'il s'agit de la stratégie la plus ancienne de Cuba, identifiée par le général Raúl Castro dans les années 1960 pour tenir sa politique de guerre contre les États-Unis et aussi pour les punir lors d'une éventuelle invasion. Avec ce type de missiles à moyenne portée, la Floride serait la cible.
Encore une chose, l'année dernière, Alexandre Loukachenko, le président de la Biélorussie, a autorisé l'installation d'armes nucléaires russes sur son territoire et il a invité d'autres pays à faire de même. Est-ce que Cuba a ou va répondre à cette demande ?
Alors, sur ces sujets, Jorge Dominguez assure que Cuba fait attention depuis la chute de l'Union soviétique, car une seule déclaration sur la prolifération d'armes nucléaires pourrait aggraver sa relation avec les États-Unis. En 2022, Cuba a ratifié aux Nations Unies sa position ferme en faveur de l'élimination des armes nucléaires. D'ailleurs, en ce qui concerne sa politique militaire, Cuba garde ses distances avec ses alliés, y compris avec les latino-américains.
Ubaldo Bravo de la rédaction en espagnol de Radio France Internationale. Venons-en maintenant au fait que l'archevêque polonais Marek Zalewski devient le premier représentant permanent du Vatican au Vietnam. Il est désormais en poste à Hanoï et il est arrivé sur place, tralatral de la rédaction vietnamienne. Il s'agit d'un événement marquant pour les 7% de catholiques au Vietnam et cela clôt finalement 30 ans de brouille entre le Saint-Siège et le régime communiste.
Oui, c'est le résultat le plus concret des efforts pour améliorer les relations bilatérales. Dans ces efforts-là, on a compté par exemple la visite au Vatican du président vietnamien en juillet l'année dernière, puis plus récemment, la visite d'une délégation du Parti communiste vietnamien en janvier au Saint-Siège. C'est également la persévérance des deux côtés après 3 décennies de tensions. Un bref rappel, en 1976, le régime communiste du Vietnam a expulsé leur représentante du Saint-Siège hors du Vietnam. Parmi les pays communistes restant dans le monde, seul Cuba a des liens étroits avec le Vatican. Puisque il y a trois papes qui sont venus à Cuba.
Mais là, quels ont été les obstacles au dialogue entre le Vietnam et le Vatican ?
Alors, il y avait plusieurs désaccords et les deux côtés ont besoin du temps pour se comprendre. Et je vous propose d'écouter les explications de notre invité, spécialiste de l'histoire religieuse du Vietnam, Université Paris-Cité, Claire Tran.
Tôi nghĩ các cuộc đàm phán kéo dài trước tiên là vì hai phía có một quá khứ khó khăn và nhiều bất đồng. Nhưng quan trọng hơn cả là hai bên muốn có đối thoại nên cần thời gian để lắng nghe.
Elle fait 40 ans d'histoire.
Oui, elle rappelle qu'il y a beaucoup de désaccords depuis 1975. Les relations entre l'Église et le gouvernement vietnamien sont très tendues. Le comité des affaires religieuses contrôlait strictement toutes les activités religieuses, non pas au point de fermer tous les séminaires, mais les déplacements des prêtres étaient très difficiles. De nombreux prêtres furent arrêtés. Puis dans les années 80, sous l'effet de la crise économique, le Vietnam petit à petit s'est ouvert au monde pour rompre son isolement. Par exemple, le Vietnam est devenu membre de l'ASEAN, de l'OMC, et puis avec la normalisation des relations avec les États-Unis, la loi de la liberté religieuse internationale sous le président Bill Clinton en 1998, par exemple, a forcé le Vietnam à faire preuve de bonne volonté. Et donc, notre invité, Claire Tran, a également souligné la fierté de Hanoï d'avoir une qualité de dialogue avec le Vatican bien supérieure à celle de Pékin avec le Saint-Siège.
Alors justement, quels sont les atouts de Hanoï que Pékin n'a pas ?
Alors, selon les observateurs, il y a trois facteurs à cela. Premièrement, parce que le Vietnam veut montrer qu'en revenant sur la scène internationale, il est ouvert et prêt à échanger avec toutes les parties, y compris le Vatican. Le deuxième facteur est que depuis l'époque du pape Paul VI, c'est-à-dire dans les années 60, si ma mémoire est bonne, le Vatican mène une politique de détente avec le bloc communiste d'Europe de l'Est. Le pape Paul VI a appelé à la fin de la guerre du Vietnam et au dialogue avec le gouvernement vietnamien. Et cela aide beaucoup dans la normalisation ou dans le processus de reprendre le dialogue entre les deux parties. Et puis le dernier facteur, c'est le rôle de l'Église vietnamienne, habituée depuis 1975 à dialoguer avec le Parti communiste, pour que la communauté catholique au Vietnam puisse continuer à exprimer sa foi. Après une longue période difficile qui a précédé 89, de nombreux prêtres ont pu négocier et obtenir quelques résultats, donc une certaine liberté quand même. Par exemple, en 2008, l'association Caritas de l'Église spécialisée dans les questions sociales, fermée après 1975, a été autorisée à reprendre ses activités.
Alors l'archevêque polonais Marek Zalewski est à Hanoï. Que signifie pour le Vietnam, comme pour le Vatican, la nomination de ce représentant permanent du Saint-Siège ?
Ah, ça signifie beaucoup de choses. Pour répondre à votre question, je vous propose d'écouter Claire Tran sur nos antennes.
Đối với Việt Nam, đó là kết quả cho thấy rằng Việt Nam có thể tiến lên trong quan hệ ngoại giao khác với trường hợp của Trung Quốc.
Pour le Vietnam, c'est un résultat qui montre que le Hanoï veut avancer dans ses relations diplomatiques, contrairement au cas de la Chine, qui est encore très compliqué. On dit même que le cardinal Parolin, c'est-à-dire le chef de la diplomatie du Vatican, voudrait utiliser le modèle vietnamien pour tenter d'améliorer les relations entre le Vatican et la Chine. Vous voyez, ça veut tout dire. On voit aussi que Pékin et le Vatican sont incapables d'un tel dialogue car la Chine possède l'association patriotique catholique fondée en 1957, indépendante du Saint-Siège.
À l'avenir, quel sujet le Vietnam et le Vatican pourraient-ils continuer à discuter ?
Alors, notre invité de l'histoire religieuse du Vietnam nous donne quelques éléments pour répondre.
Giáo dục là một vấn đề rất nhạy cảm vì người Công giáo không được thành lập trường học cho đến năm 1975.
L'éducation est une question très sensible car les catholiques n'ont pas le droit de créer des écoles. Jusqu'en 75, dans le sud du Vietnam, il y avait de nombreuses écoles gérées par l'Église, mais elles ont été toutes fermées. Serait-il possible désormais d'ouvrir des écoles catholiques? Ça, c'est une question. Et puis en 2016, par exemple, le gouvernement vietnamien a approuvé la création d'une académie catholique, mais ce n'est pas une université comme à Paris qui enseigne toutes les matières. Pour l'instant, l'éducation reste quand même un domaine exclusif du Parti communiste.
Alors en Asie du Sud-Est, le Vietnam est le deuxième pays catholique derrière les Philippines. Est-ce qu'on peut envisager une visite du pape sur place?
Claire,
tôi nghĩ là có thể. Cách đây không lâu, tôi đến Roma theo lời mời phỏng vấn của Đại
Pháp.
Elle pense que c'est tout à fait possible, mais le pape est âgé, sa santé est fragile et n'est pas sûre que sa santé lui permette de se rendre immédiatement au Vietnam. En tout cas, l'invitation a été lancée et le pape, il faut savoir qu'il s'est déjà rendu dans de nombreux pays asiatiques, mais pas encore au Vietnam.
Qui compte pourtant le plus grand nombre de catholiques dans la région.
Exactement, comme
c'était
vous le souvenez.
Tran à Tran de la rédaction vietnamienne de RFI. Bizemam pour la rédaction cambodgienne. Vous allez nous parler du Festival international des cinémas d'Asie. La 30e édition se tient actuellement à Vesoul, qui se trouve en Haute-Saône, département de la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors il s'agit du festival le plus ancien d'Europe consacré au cinéma du continent asiatique.
Oui, en effet, Philippe, ce festival communément appelé le FICA a lieu jusqu'au 13 février. Créé en 1975, le FICA fête cette année son 30e anniversaire. Le FICA de Vesoul est le doyen des festivals asiatiques d'Europe et le seul des festivals asiatiques européens à s'intéresser à l'Asie dans sa totalité géographique, du Proche à l'Extrême-Orient, de l'Oural au Pacifique et du Canal de Suez jusqu'à l'océan Indien. C'est donc très vaste et autant de richesses cinématographiques, Philippe. Chaque année, c'est environ 90 films projetés, aussi bien des fictions et des documentaires venant d'Asie et certains en première mondiale. Année après année, ce FICA a su imposer sa place, devenant une véritable plateforme pour faire découvrir les cinémas d'auteurs de l'Asie. Plusieurs grands réalisateurs asiatiques ont passé par là.
Année après année, vous disiez, parce que c'est grâce à un couple d'amoureux du grand écran que ce festival a été créé il y a de cela plus de 30 ans.
Exactement, Philippe. Il s'agit de Martine et Jean-Marc Terouane. Tous les deux, ils étaient anciens professeurs et documentalistes. Leur générosité, leur énergie et leur amour pour le continent asiatique ont fait voyager à travers des films depuis 30 ans par moins de 700 000 spectateurs.
Quelle est cette musique qu'on entend?
Alors, il s'agit de la bande son originale composée par le japonais Shigeru Umebayashi pour le film In the Mood for Love, réalisé par Wong Kar-wai en 2000. C'est sur cette musique, jouée par l'ensemble philharmonique de Vesoul, que le couple Terouane monte sur scène le soir du 6 février pour déclarer l'ouverture de la 30e édition de FICA.
Et alors, en 30 ans, Pizet, ce sont 2200 films qui ont été projetés?
Oui, Philippe, chaque année, une équipe de 200 bénévoles entoure le couple Terouane pour promouvoir la diversité et la richesse du cinéma asiatique. Ce festival a embarqué avec lui toute l'agglomération de Vesoul et participe au rayonnement de cette petite ville française. La 30e édition de FICA est portée par le thème de l'engagement. L'engagement pour le droit de l'homme, la liberté, la démocratie, la tolérance et bien sûr la paix. 92 films venus de 29 pays vont être présentés cette année. Je peux vous dire, Philippe, que le public est très enthousiaste et passionné. Il y en a qui n'hésitent pas à prendre une semaine de congé pour venir à ce festival.
Alors cette année, c'est le cinéma taïwanais qui est mis à l'honneur. Une reconnaissance particulière pour Taïwan en cette période géopolitiquement troublée avec les bisbilles avec la Chine.
Oui, Philippe, bien sûr, pour cette 30e édition, le FICA a choisi de porter les regards sur deux cinémas en particulier, le cinéma de Kerala, un état au sud de l'Inde et surtout le cinéma taïwanais. Au travers de 19 films taïwanais de 1950 à 2023, le FICA a voulu proposer un aperçu sur l'évolution politique, économique et sociale de Taïwan dans sa longue marche vers la démocratie et l'émancipation vis-à-vis de la Chine. Madame Xinfang Hu, la directrice de centre, la directrice du Centre culturel de Taïwan à Paris, qui était présente à la soirée d'ouverture, remercie le FICA et le public français pour cet honneur réservé au cinéma taïwanais. Pour elle, grâce à son cinéma, Taïwan a su se faire une place dans ce monde disputé. Alors, elle dit que pour elle, la culture est le meilleur outil pour échanger entre les peuples. Comme vous savez sans doute, Taïwan se trouve dans une situation assez dangereuse sur la scène internationale. Mais quand les gens regardent les films taïwanais, ils sont en contact direct avec notre culture.
Et voilà donc pour ce festival du cinéma d'Asie. C'est à Vesoul, en Haute-Saône, pour encore quelques jours. C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale avec une réalisation de Laurent Philippot.